Ça peut pas faire de mal. Tous les samedis sur France Inter, à partir de 18h.
Cette porte. Vous n'y arriverez pas sans outils. Un peu d'armes, vous
n'y pouvez pas. On ne peut pas
laisser assassiner ces femmes.
Ça peut pas faire de mal.
Ouvrez ! Au nom de la loi, ouvrez !
C'est verrouillé d'intérieur.
Un bon coup d'épaule. Pas de résistance. Rendez-vous.
Personne. Personne n'a pu sortir de cette pièce.
S'il n'y avait pas tout ce sang et ce saccage, je croirais avoir fait un cauchemar.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal. Il y a dans l'histoire littéraire de vraies damnations, des hommes qui portent le mot guignot écrit en caractères mystérieux dans les plis sinueux de leur front. L'ange aveugle de l'expiation s'est emparé d'eux et les fouette à tour de bras pour l'édification des autres. En vain, leur vie montre-t-elle des talents, des vertus, de la grâce. La société a pour eux un anathème spécial et accuse en eux les infirmités que sa persécution leur a données. Que ne fit pas Hoffmann pour désarmer la destinée et que n'entreprit pas Balzac pour conjurer la fortune ? Existe-t-il donc une providence diabolique qui prépare le malheur dès le berceau, qui jette avec préméditation des natures spirituelles et angéliques dans des milieux hostiles, comme des martyrs dans des cirques? Y a-t-il donc des âmes sacrées, vouées à l'autel, condamnées à marcher à la mort et à la gloire à travers leurs propres ruines? Lamentable tragédie que la vie d'Edgar Poe. Sa mort, dénouement horrible dont l'horreur est accrue par la trivialité. De tous les documents que j'ai lus, est résultée pour moi la conviction que les États-Unis ne furent pour Edgar Poe qu'une vaste prison qu'il parcourait avec l'agitation fiévreuse d'un être fait pour respirer dans un monde plus anormal qu'une grande barbarie éclairée au gaz, et que sa vie intérieure, spirituelle, de poète ou même d'ivrogne, n'était qu'un effort perpétuel pour échapper à l'influence de cette atmosphère antipathique. Impitoyable dictature que celle de l'opinion dans les sociétés démocratiques. On dirait que de l'amour impie de la liberté est née une tyrannie nouvelle, la tyrannie des bêtes, avec une insensibilité féroce. Je le dis sans honte parce que je sens que cela part d'un profond sentiment de pitié et de tendresse. Edgar Poe, ivrogne, pauvre, persécuté, paria, me plaît plus que calme et vertueux. Je dirais volontiers de lui ce que le catéchisme dit de notre Dieu, il a beaucoup souffert pour nous. On pourrait écrire sur son tombeau « Vous qui avez aspiré à l'infini et dont les sentiments refoulés ont dû chercher un affreux soulagement dans le vin de la débauche, priez pour lui. Priez pour lui qui voit et qui sait. » Cet éloge vibrant est signé de la plume d'un grand poète français du XIXe siècle qui voyait en Edgar Poe son frère d'infortune. Il s'agit de Charles Baudelaire. En 1856, un an avant le scandale des Fleurs du Mal, Baudelaire traduit les histoires extraordinaires de l'écrivain américain et les recommande à son ami, le critique Sainte-Beuve. « Je désire qu'Edgar Poe, qui n'est pas grand-chose en Amérique, devienne un grand homme pour la France. Il tiendra sa promesse et rendra célèbre certaines nouvelles telles que le Scarabée d'or, exaltante chasse au trésor, ou Double assassinat dans la rue Morgue, considéré comme le premier roman policier de la littérature moderne. » Pourtant, Edgar Poe a connu un destin tragique. Né en 1809 à Boston, il est un enfant de la balle, né d'un couple de comédiens qui vit dans la misère. Lorsque ses parents meurent de la tuberculose, l'orphelin de 6 ans est adopté par une famille aisée qui lui offre une éducation et l'envoie plus tard en pension en Angleterre. À son retour, le jeune homme se fâche avec son père adoptif qui lui coupe les vivres. L'apprenti écrivain vit tant bien que mal comme journaliste et critique littéraire, mais ses prises de position anti-américaines, sa réputation d'alcoolique et ses crises de démence l'isolent de plus en plus et le marginalisent. Il se marie à Virginia, sa cousine germaine, mais celle-ci meurt à son tour de la tuberculose, à l'âge de 24 ans. Endetté, Edgar Poe mène une vie d'errance entre Boston, New York, Philadelphie et Baltimore. Réduit au vagabondage, affamé et affaibli, il meurt à l'âge de 40 ans, au matin du 7 octobre 1849, après une violente bagarre entre ivrognes qui l'ont probablement roué de coups et laissé pour mort dans la rue. Marqué par la disparition précoce des siens, traqué par sa propre faim, l'écrivain laisse une œuvre hantée par la mort, où ses narrateurs, ses doubles, affrontent les multiples visages de la grande inconnue. Ce soir, redécouvrons le talent exalté du jeune Edgar Poe à travers la lecture de ses premières nouvelles, qui excellent dans le registre du fantastique. Plus d'un siècle et demi après la traduction de Baudelaire, elles font l'objet d'une nouvelle traduction par Christian Garcin et Thierry Gilibeuf aux éditions Phébus. Commençons par l'une de ses œuvres les plus célèbres, La chute de la maison Usher. Le ton étrange de cette nouvelle a fasciné les lecteurs et en a fait le symbole de la littérature décadente à la fin du XIXe siècle. Oscar Wilde s'en inspirera pour son roman Le portrait de Dorian Gray, qui partage la même obsession pour la déchéance et la jeunesse sacrifiée. Le narrateur, un jeune cavalier, rend visite à un ami, Roderick Usher, atteint d'une mystérieuse maladie nerveuse. Dernier descendant d'une grande famille, le jeune homme hypochondriaque souffre d'une forme d'hypersensibilité à l'atmosphère humide du domaine familial. Ouvrons la première page de ce récit sombre et angoissant, où le principal personnage n'est autre que la maison elle-même, une bâtisse sinistre au milieu d'un paysage mortuaire. Pendant toute une journée morne, sombre et muette d'automne, alors que les nuages oppressants étaient bien bas dans les cieux, j'avais traversé seul, à cheval, une contrée singulièrement sinistre. Et j'avais fini par me retrouver, alors que les ombres du soir gagnaient du terrain, en vue de la mélancolique maison Usher. J'ignore comment cela fut possible, mais au premier regard que je jetais sur le bâtiment, une tristesse insupportable envahit mon esprit. Je contemplais le décor qui s'offrait devant moi. La simple demeure et le cadre banal du domaine, les murs lugubres, les fenêtres pareilles à des yeux vides, quelques rangées d'herbes marécageuses et quelques troncs d'arbres blancs et pourris. J'éprouvais une forte dépression que je ne saurais mieux comparer qu'à la phase où l'opiomane sort de sa rêverie. Le retour amer à la vie quotidienne, le moment effroyable où le voile retombe. Le cœur se glaçait, s'effondrait, ressentait un malaise. Des pensées d'une irrépressible tristesse qu'aucun aiguillon de l'imagination ne parvenait à piquer pour les pousser vers le sublime. Qu'est-ce qui faisait, et je m'arrêtais pour y réfléchir, qu'est-ce qui faisait que la contemplation de la maison Usher me mettait tellement les nerfs à vif? C'était un mystère des plus insolubles, et j'étais incapable de lutter avec les sombres images qui s'emparaient de moi pendant que je m'interrogeais. Il était possible, me suis-je fait la réflexion, qu'une disposition différente des éléments du décor et des détails du tableau eût suffi à modifier, voire à annihiler cette capacité à générer des impressions pleines de tristesse. Mû par cette idée, je guidais mon cheval vers le bord vertigineux d'un petit étang sombre et macabre, miroir imperturbable au pied du bâtiment, et je regardais, parcouru d'un frisson encore plus violent que la première fois, les images inversées et refaçonnées des herbes grises, des effroyables troncs d'arbres et des fenêtres pareilles à des yeux vides. C'était néanmoins dans ce manoir mélancolique que je me proposais désormais de séjourner quelques semaines. Son propriétaire, Roderick Usher, avait été un de mes bons camarades d'enfance, mais plusieurs années s'étaient écoulées depuis notre dernière rencontre. Cependant, une lettre m'était parvenue récemment dans une partie reculée du pays, une lettre de lui, qui, par sa nature farouchement importune, n'admettait d'autre réponse que ma venue. Le manuscrit laissait percer une agitation nerveuse. Son auteur parlait d'une grave maladie psychique, d'un désordre mental qui l'oppressait et du grand désir de me voir, étant son meilleur et en vérité seul ami proche. J'ai dit que le seul effet de mon expérience quelque peu puérile qui avait consisté à scruter le petit étang avait été de renforcer ma première impression singulière. La rapidité avec laquelle ma superstition augmentait, car pourquoi ne lui donnerais-je pas ce nom, servait essentiellement à en accélérer l'accroissement. Telle est, je le sais depuis longtemps, la loi paradoxale de tous les sentiments reposant sur la terreur. Et il est possible que ce soit l'unique raison pour laquelle, quand j'ai levé les yeux pour regarder la maison, les détachant de son reflet dans l'eau, une étrange idée s'empara de moi. Une idée si ridicule, en vérité, que je ne la mentionne que pour montrer la force vive des sensations qui m'oppressaient. Mon imagination avait tellement travaillé que j'en étais venu à croire réellement que le manoir et le domaine tout entier, ainsi que leurs environs immédiats, baignaient dans une atmosphère qui leur était propre. Une atmosphère qui n'avait aucune affinité avec l'air du ciel, mais qui montait des arbres en décomposition, des murs gris et de l'étang silencieux, à peine perceptible et couleur de plomb. Chassant de mon esprit ce qui devait avoir été un rêve, j'examinais de plus près l'aspect réel du bâtiment. Sa principale caractéristique semblait être celle d'une excessive antiquité. Aucune portion de la maçonnerie ne s'était effondrée, mais il semblait y avoir une contradiction totale entre l'état parfait de ses parties et les pierres qui s'effritaient. Cela m'évoquait beaucoup l'intégrité trompeuse de vieilles boiseries qui auraient été pourries pendant de longues années dans un caveau oublié, sans jamais être dérangées par le souffle de l'air extérieur. Cependant, mis à part cet indice d'une vétusté excessive, l'édifice ne laissait guère apparaître de signes d'instabilité. Peut-être que l'œil d'un fin observateur aurait pu découvrir une fissure à peine perceptible qui, partant du toit de la façade, redescendait le mur en zigzag pour se perdre dans les eaux maussades de l'étang. Après avoir posé le décor, découvrons quel drame surnaturel secoue la vieille demeure. À son arrivée, le narrateur apprend que Roderick partage le manoir familial avec une jeune femme, Lady Madeline, qui n'est autre que sa sœur jumelle, elle aussi atteinte d'une mystérieuse maladie. Le soir même, celle-ci meurt brusquement. Obéissant à la volonté de son ami, le narrateur l'aide à installer sa dépouille dans un caveau souterrain situé juste en dessous de leurs appartements. 8 jours passent ainsi, puis par un soir d'orage. Des frissons irrépressibles envahirent petit à petit mon être. Et, bientôt, un cauchemar né d'une angoisse sans raison vint peser sur mon cœur. Je le chassai en haletant violemment, me redressai sur les oreillers et scrutant l'obscurité épaisse de la chambre, je tendis l'oreille. Un pas léger sur un escalier voisin capta mon attention. Je ne tardai pas à reconnaître celui d'Usher. Je me levai et endossai mes vêtements. L'instant d'après, il frappait délicatement à ma porte et entrait en tenant une lampe. Son teint était comme d'habitude d'une pâleur cadavéreuse, mais dans ses yeux se lisait en plus une folle hilarité, une hystérie manifestement contenue dans toute son attitude. Son air m'effraya, mais j'accueillis sa présence comme un soulagement. « Vous ne l'avez pas vu ?» demanda-t-il brusquement, après avoir regardé autour de lui en silence pendant quelques instants. « Vous ne l'avez donc pas vu ? Mais restez, vous la verrez. » Tout en parlant ainsi et ayant pris soin d'abaisser sa lampe, il se précipita vers l'une des fenêtres et l'ouvrit en grand à l'orage. La fureur impétueuse de la rafale qui s'engouffra manqua presque de nous soulever du sol. C'était vraiment une nuit de tempête, mais terriblement belle et extrêmement singulière dans son horreur et sa beauté. Un tourbillon avait apparemment concentré ses forces dans les parages, car des changements violents et fréquents intervenaient dans la direction du vent. Les nuages se ruaient les uns sur les autres. Pour autant, nous n'apercevions ni la lune ni les étoiles, et il n'y avait pas le moindre éclair. Mais la surface inférieure des énormes masses de vapeur agitées, ainsi que tous les objets terrestres dans notre environnement immédiat, rayonnaient à la lumière surnaturelle d'une exhalaison gazeuse, faiblement lumineuse mais distinctement visible, qui flottait autour du manoir et le recouvrait comme un linceul. « Il ne faut pas que vous voyiez cela !» m'écriai-je en frissonnant à l'adresse d'Usher, en le reconduisant avec violence et douceur de la fenêtre à un siège. Ces apparitions qui vous abasourdissent ne sont que des simples phénomènes électriques les plus ordinaires, à moins qu'ils ne tirent leur effroyable origine des miasmes nauséabonds de l'étang. Refermons cette fenêtre. L'air glacial est dangereux pour votre constitution. Voici l'un de vos romans préférés. Je vais vous faire la lecture et vous écouterai. Et nous passerons ainsi ensemble cette terrible nuit. L'antique volume que j'avais pris était « Le Mad Trist, le Concile des Fous » de Sir Lancelot Canning. J'étais arrivé à cette partie bien connue de l'histoire où Æthelred, le héros, vainqueur d'un prodigieux dragon, poursuivait ainsi. Et maintenant, le champion ayant échappé à la terrible fureur du dragon, se rappelant le bouclier d'airain, avança courageusement sur le sol d'argent du château pour s'approcher de l'endroit où le bouclier était accroché au mur qui, en vérité, n'attendit pas qu'il fût arrivé, mais tomba à ses pieds en retentissant violemment et effroyablement. À peine ces syllabes eurent-elles franchi mes lèvres, comme si un bouclier d'airain était vraiment tombé lourdement sur le sol d'argent à l'instant même, j'en entendis l'écho distinct, creux, métallique et retentissant, quoique apparemment étouffé. Extrêmement troublé, je bondis sur mes pieds. Je n'étais absolument pas sûr que mon compagnon eût remarqué les bruits en question, bien que, de toute évidence, son comportement eût connu une étrange altération au cours des dernières minutes. Il avait progressivement fait pivoter son fauteuil afin de se trouver assis, le visage tourné vers la porte de la chambre, de sorte que je ne parvenais à voir ses traits qu'en partie. Sa tête était retombée sur sa poitrine, mais je savais qu'il ne s'était pas endormi. Son œil, que je percevais de profil, étant resté fixe et grand ouvert. Mais quand je posai ma main sur son épaule, toute sa personne fut parcourue d'un violent tremblement, un sourire maladif frémit sur ses lèvres, et je vis qu'il parlait tout bas, dans un murmure précipité et bafouillant, comme s'il n'avait pas conscience de ma présence. En me penchant tout près de lui, je finis par saisir l'horrible portée de ses paroles. Vous ne l'entendez pas ? Oui, je l'entends et je l'ai entendu. Plusieurs minutes, plusieurs heures, plusieurs jours, je l'ai entendu, mais je n'osais pas. Oh, ayez pitié de moi, je n'osais pas parler. Nous l'avons enterrée vivante dans la tombe. Ne vous ai-je pas dit que mes sens étaient extrêmement aiguisés ? Je vous ai dit maintenant que j'ai entendu ses premiers faibles mouvements au fond du cercueil. Et maintenant, cette nuit, a-t-elle la porte brisée de l'ermite, le râle du dragon et le bruit retentissant fait par le bouclier. Disons plutôt son cercueil enfoncé, les gonds métalliques de sa prison qui grincent et sa lutte avec la porte de cuir. Du caveau. Où m'enfuirais-je ? Ne serait-elle pas là d'un instant à l'autre ? N'est-elle pas en train d'accourir pour me reprocher ma précipitation ? N'ai-je pas entendu son pas dans l'escalier ? Est-ce que je ne distingue pas les battements lourds et effroyables de son cœur, pauvre fou ? Et il bondit furieusement sur ses pieds et hurla ses syllabes comme s'il rendait l'âme dans cet effort. « Pauvre fou, je vous dis qu'elle se trouve à présent de l'autre côté de la porte !» Comme si l'énergie surhumaine qu'il avait mise dans ses mots avait acquis la puissance d'un charme, les énormes panneaux qu'il désignait du doigt ouvrirent lentement, à l'instant même, leur lourde mâchoire d'ébène. C'était l'œuvre de la bourrasque, mais derrière ces portes se dressait la silhouette altière et revêtue d'un linceul de Lady Madeleine d'Usher. Il y avait du sang sur ses habits blancs et les traces d'une âpre lutte se lisaient sur son visage émacié. L'espace d'un instant, elle demeura tremblante et titubante sur le seuil, puis avec un cri faible et plaintif, elle retomba lourdement sur son frère et dans son ultime agonie, violente et mortelle, elle l'entraîna au sol, cadavre et victime des terreurs qu'il avait prévues. Je m'enfuis, atterré de cette chambre et de cette demeure. L'orage battait encore son plein quand je traversais la vieille allée. Soudain, une vive lumière se projeta sur le chemin et je me retournai pour voir d'où pouvait bien provenir une lueur si inhabituelle car il n'y avait derrière moi que l'immense manoir et ses ombres. La lumière était celle de la pleine lune rouge de sang en train de se coucher qui brillait désormais vivement à travers cette fissure à peine visible autrefois dont j'ai dit qu'elle descendait du toit du bâtiment en zigzag jusqu'à sa base. Pendant que je regardais, cette fissure s'élargit rapidement, puis la tornade redoubla violemment. L'orbe lunaire tout entier explosa soudain sous mes yeux. Ma tête chancela quand je vis les puissants murs s'effondrer. Il y eut un long cri tumultueux, comme la voix d'un millier de grandes eaux, et l'étang froid et profond à mes pieds se referma de mauvaise grâce et en silence sur les fragments de la maison Usher.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
We'll be right back. l'énigme d'Edgar Poe.
Georges Walter.
Il sait tout faire, il a tous les dons. Le mot vertige, je crois que c'est peut-être celui qu'il faut garder pour... Son œuvre est un vertige. L'énigme d'Edgar Poe, c'est d'abord une énigme littéraire, c'est un cas littéraire absolu. Il est passé, on a toujours dit, il est passé à côté de sa vie. Il n'a pas vécu, il était l'homme qui écrit, une espèce de... Moi, je l'ai surnommé l'Indien sans tribu. Il n'appartient à aucune tribu, à rien.
Entre terreur et exaltation, la mort est le thème qui croise les mouvements romantiques et fantastiques tout au long du XIXe siècle. Revenons un instant à Baudelaire. Dans une lettre à un ami, celui-ci se confie, je cite... Savez-vous pourquoi j'ai si patiemment traduit Poe ? Parce qu'il me ressemblait. La première fois que j'ai ouvert un livre de lui, j'ai vu, avec épouvante et ravissement, non seulement des sujets rêvés par moi, mais des phrases pensées par moi et écrites par lui 20 ans auparavant. On se souvient de son célèbre poème « Le Voyage », publié à la fin du recueil des Fleurs du Mal.
« Oh mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. »
Exaltation de la mort comme dernière aventure, ce poème rappelle une nouvelle d'Edgar Poe écrite en 1833 et intitulée « Manuscrit dans une bouteille ». Embarquons pour cette ultime traversée, en pleine tempête, vers les confins inconnus du monde. Le narrateur, un vieux marin, semble être le seul être vivant à bord. Puissamment poussé par le vent, le bateau a poursuivi sa course terrifiante plein sud, toute voile tendue. Depuis le haut des mâts jusqu'au baume, et plongeant à tout moment ces vergues de perroquets dans le plus épouvantable enfer liquide qu'il soit possible de concevoir. Je viens de quitter le pont, où il m'est impossible de tenir debout, alors que les membres de l'équipage, eux, semblent à peine incommodés. Ils ne m'ont prêté aucune attention, et alors même que je me tenais au milieu d'eux, ils semblaient n'avoir aucune conscience de ma présence. Tous portaient les stigmates du grand âge. Leurs genoux faibles chancelaient, leurs épaules étaient pliées en deux sous le poids de leur décrépitude. Leur peau flétrie frémissait dans le vent. Leur voix était sourde, tremblante et brisée. Leurs yeux larmoyaient de vieillesse. Et la tempête agitait en tous sens leurs cheveux blancs. C'est pour moi un miracle inouï que notre énorme masse ne soit pas engloutie promptement et à jamais. Nous sommes sans doute condamnés à errer indéfiniment au-dessus de l'éternité sans jamais devoir plonger dans l'abîme. Nous planons avec la rapide aisance des mouettes sur des vagues mille fois plus effrayantes qu'aucune que j'ai jamais vue. D'énormes masses d'eau s'élèvent au-dessus de nous comme des démons des abysses. J'ai vu le capitaine face à face et dans sa propre cabine, mais ainsi que je m'y attendais, il ne m'a même pas remarqué. Bien que son apparence ne fût au premier coup d'œil ni plus ni moins que celle d'un homme ordinaire, il reste qu'à le regarder, j'ai été saisi d'un sentiment de terreur respectueuse, mêlé de stupeur et d'admiration. Son corps est dense et ramassé, mais c'est la singularité de son expression, la profonde, terrible et saisissante preuve de son grand âge, si absolu, si démesuré, qui a provoqué en moi un sentiment indicible. Son front, bien que peu ridé, semble frappé du sceau de myriades d'années. Ses cheveux gris sont le témoin du passé et ses yeux, plus gris encore, les sibylles de l'avenir. Le plancher de la cabine était tout entier recouvert d'étranges in-folios à fermoirs de fer, d'instruments de mesure moisis et d'anciennes cartes depuis longtemps obsolètes. La tête appuyée sur ses mains, il examinait avec attention, l'œil ardent et inquiet, un papier que je pris pour un ordre de mission, qui en tout cas portait une signature royale. Il marmonnait pour lui-même quelques syllabes sourdes et renfrognées dans une langue étrangère. C'est là, dans la cabine du capitaine, que j'ai pris le matériel nécessaire pour écrire ces lignes. Je continuerai de temps en temps à tenir ce journal. Certes, il est possible que je ne puisse trouver le moyen de le faire parvenir au monde, mais j'essaierai jusqu'au bout. Au dernier moment, j'enfermerai le manuscrit dans une bouteille que je jetterai à la mer. Le navire, avec tout ce qu'il contient, est imprégné de l'esprit des siècles passés. Les membres de l'équipage glissent çà et là comme des fantômes des anciens temps. Leurs regards sont impatients et inquiets. Et quand devant moi leurs doigts traversent la lueur blafarde des lampes tempêtes, j'éprouve un sentiment qui m'est inconnu. Quoique j'aie été toute ma vie amateur d'antiquités et me sois abreuvé aux ombres des colonnes déchues de Balbec, de Tadmor et de Persépolis, si bien que mon âme elle-même est devenue une ruine. Tout autour du navire s'étendent les ténèbres d'une nuit éternelle et le chaos d'une eau sans écume mais à une lieue environ de chaque côté, on peut apercevoir, indistinctement et par intermittence, d'énormes murailles de glace qui se dressent vers le ciel désolé et qui font penser aux frontières du monde connu. Ainsi que je l'imaginais, le navire se trouve pris dans un courant, si l'on peut nommer ainsi un torrent qui, criant et hurlant au milieu des glaces, se précipite vers le sud dans un bruit de tonnerre à la vitesse vertigineuse d'une cataracte. Concevoir l'horreur de mes sensations est, je suppose, totalement impossible. Mais la curiosité de pénétrer les mystères de ces terribles régions domine même mon désespoir et me réconcilie avec l'aspect le plus hideux de la mort. Il est évident que nous nous précipitons vers quelque excitante découverte, quelque secret jamais révélé, dont le prix à payer est notre destruction. Peut-être ce courant nous entraîne-t-il vers le pôle sud lui-même. Les hommes d'équipage arpentent le pont d'un pas hésitant et inquiet, mais sur leur visage se lit davantage l'ardeur de l'espérance que l'apathie du désespoir. Cependant, nous sommes toujours souvent arrière, et comme nous portons une lourde charge de toile, le navire s'élève parfois tout entier au-dessus des flots. Oh, sainte horreur ! La glace s'ouvre soudain sur la droite, puis sur la gauche, et nous tournoyons vertigineusement en immenses cercles concentriques autour d'un gigantesque amphithéâtre dont le sommet des murailles se perd dans les ténèbres au loin. Mais il ne me reste que peu de temps pour m'interroger sur ma destinée. Les cercles rétrécissent rapidement, nous plongeons follement dans l'étreinte d'un tourbillon, et pris dans le grondement, le mugissement et la déflagration de l'océan et de la tempête, le navire tremble et, oh mon Dieu, plonge soudain dans l'abîme.
Nous nous embarquerons sur la mer des ténèbres, avec le cœur joyeux d'un jeune passager. Entendez-vous ces voix charmantes et funèbres qui chantent par ici? Vous qui voulez manger le lotus parfumé, c'est ici qu'on vendange les fruits miraculeux dont votre cœur a faim. Venez vous enivrer de la douceur étrange de cet après-midi qui n'a jamais de fin. À l'accent familier, nous devinons le spectre. Nos pilades, là-bas, tendent leurs bras vers nous. Pour rafraîchir ton cœur, nage vers ton électre, dit celle dont jadis nous baisions les genoux. Oh mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre.
Continuons à feuilleter les récits fantastiques d'Edgar Poe et arrêtons-nous sur un court texte d'inspiration mythologique. Paru en 1835, il s'intitule « Ombre, une parabole ». Mais comment décrire celui ou celle qu'on ne voit pas ? Voici le tableau clair-obscur d'une veillée funéraire, avec son sujet antique et son rituel remontant à la nuit des temps. La scène, éclairée à la seule lueur des bougies, est digne de célèbres peintures de la Renaissance. L'écrivain y concentre ses thèmes de prédilection, la lourdeur de l'atmosphère, une sensibilité à bout de nerfs, l'éclat pâle d'un miroir, une brume irréelle. Vous qui me lisez, vous faites encore partie des vivants. Mais moi qui écris, j'aurais depuis longtemps rejoint le royaume des ombres. Car en vérité, de bien étranges événements se sont produits. Des choses secrètes auront été révélées. Et plusieurs siècles auront passé avant que ces souvenirs puissent être connus des hommes. Et lorsqu'ils le seront, certains n'y croiront pas. D'autres douteront. Et il y en aura bien peu pour méditer sur les caractères que je grave ici avec un stylet de fer. L'année avait été pleine de terreur et de sentiments plus forts encore que la terreur, pour lesquels il n'existe aucun nom ici-bas. Car de nombreux signes et prodiges s'étaient produits, et de tous côtés, sur la terre comme sur les mers, s'étaient déployées les ailes noires de la peste. En outre, tous ceux qui étaient versés dans la science des étoiles étaient parfaitement au courant de l'aspect maladif de la voûte céleste. Et pour moi, le grec « oinos », comme pour beaucoup d'autres, il était évident que le caractère particulier des cieux s'imposait non seulement par ses manifestations physiques sur le globe terrestre, mais aussi dans les esprits, l'imagination et les réflexions des hommes. Une nuit dans la sombre cité nommée Ptolémaïs, derrière les murs d'un noble palais, nous étions sept assis autour de quelques flacons de vin rouge de Chios. La pièce où nous étions réunis n'avait pas d'autre entrée qu'une haute porte de cuivre d'une superbe exécution verrouillée de l'intérieur. En outre, dans cette chambre ténébreuse, des tentures noires cachaient à notre vue la lune, les étoiles lugubres et les rues dépeuplées. Mais le pressentiment et le souvenir du mal, eux, ne pouvaient nous être épargnés. Il y avait tout autour de nous des choses dont je ne puis rendre compte précisément, des choses matérielles et d'autres spirituelles. Une certaine lourdeur dans l'atmosphère, une sensation d'étouffement, d'anxiété, et surtout ce terrible état qu'éprouvent les personnes nerveuses lorsque leurs sens sont aiguisés et parfaitement éveillés, tandis que leurs pensées sont comme engourdies. Tout était lourd et pesant. Tout, sauf les sept lampes de fer qui éclairaient nos festivités. S'élevant en longues bandes lumineuses, elles brûlaient ainsi, pâles et immobiles. Et dans le miroir que tendait leur reflet sur le plateau rond de la table d'ébène autour de laquelle nous étions assis, chacun pouvait voir sa propre pâleur et l'éclat inquiet des yeux baissés de tous ses compagnons. Pourtant, nous rions, et nous étions joyeux à notre façon, une façon plutôt hystérique. Nous chantions des chansons d'Anacréon qui ne sont que folie, et buvions abondamment, même si la couleur du vin nous rappelait celle du sang. Car il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce, en la personne du jeune Zoïlus, mort, gisant de tout son long dans son linceul. Il était à la fois le génie et le démon de la scène. Hélas, ses yeux dans lesquels la mort n'avait éteint qu'à moitié les feux sombres de la peste semblaient prendre autant d'intérêt à nos rires que les morts sont capables d'en prendre aux amusements de ceux qui sont sur le point de mourir. Quant à moi, Oinos, fixant avec insistance les profondeurs du miroir d'ébène, je chantais d'une voix forte et sonore les chansons du fils de Théos. Mais peu à peu, mon chant faiblit, et ses échos, roulant de loin en loin parmi les tentures de la chambre, devinrent faibles et enfin s'évanouirent. Or, du milieu de ces draperies noires où le chant venait de disparaître, se dressa une ombre sombre et mal définie, une ombre telle que la lune, lorsqu'elle est basse dans le ciel, pourrait en modeler à partir d'une silhouette humaine. Mais ce n'était pas l'ombre d'un homme, ni celle d'un dieu, ni celle de quoi que ce fût de connu. Elle frémit un moment parmi les draperies de la pièce, puis demeura enfin, visible aux yeux de tous, immobile à la surface des portes de cuivre. Elle était vague, sans forme précise, indéfinie. Mais nous, les sept qui étions ici réunis, nous qui avions vu l'ombre émerger des tentures, nous n'osions pas la regarder franchement et nous baissions les yeux. Et finalement, ce fut moi, Oinos, qui, prononçant ces quelques mots à voix basse, demandai à l'ombre qui elle était et d'où elle venait. Et l'ombre répondit « Mon nom est Ombre. » Et ma demeure se situe près des catacombes, tout à côté des sombres plaines élyséennes, à la frontière du fétide canal de Charon.
Mon nom est Ombre. Et ma demeure se situe près des catacombes, tout à côté des sombres plaines élyséennes,
à la frontière du fétide canal de Charon. Alors, d'un même mouvement d'horreur, nous nous dressâmes les sept de nos sièges, terrifiés et tremblants, car la voix de l'ombre n'était pas celle d'une seule personne, mais d'une multitude d'êtres, et modulant sa cadence syllabe après syllabe, elle faisait obscurément résonner dans nos crânes le timbre connu et familier de milliers d'amis disparus. Ombre parmi les ombres, la mort emprunte souvent le visage de la femme. Les nouvelles d'Edgar Poe sont peuplées de créatures diaphanes, au teint pâle et à la beauté maladive. Elles s'appellent Lady Madeline, on l'a vu, mais aussi Bérénice ou Morella. Elles semblent dotées d'un pouvoir surnaturel, celui du revenir du royaume des morts. Ou bien est-ce une hallucination du narrateur sous l'effet de l'opium ? Restons dans le registre de l'Antiquité avec un récit publié en 1838 qui emprunte son nom à une nymphe de Virgile, Ligeia. Comme toutes les héroïnes d'Edgar Poe, la belle aux cheveux de corbeau meurt d'un mal obscur. Son époux quitte alors l'Allemagne pour l'Angleterre où il se remarie avec une jeune fille blonde aux yeux bleus, prénommée Rowena. Mais quelques mois plus tard, celle-ci succombe à son tour, tourmentée par des bruits qui l'ont rendue folle. Retrouvons le narrateur au chevet de la morte, accablé de remords. D'étranges visions provoquées par l'opium voltaient çà et là devant moi comme des ombres. Je tournais mon regard vers la forme pâle et rigide allongée sur le lit. Je sentis alors fondre sur moi 1000 souvenirs de Ligeia. Et me revint en mémoire avec la force impétueuse d'un torrent l'intolérable douleur que j'avais éprouvée lorsque je l'avais vue, elle, allongée ainsi dans son suaire. La nuit avançait, et moi, le cœur rempli du souvenir amer de mon unique et suprême amour, je restais là à contempler le corps de Rowena. Il devait être minuit, ou peut-être plus tôt, ou plus tard, lorsqu'un sanglot, sourd, léger, mais très distinct, me tira en sursaut de ma rêverie. Je sentis qu'il provenait du lit d'ébène, du lit de mort. Je tendis l'oreille, en proie à une terreur superstitieuse, mais le bruit ne se répéta pas. Pourtant, je ne pouvais m'être trompé. Si faible fut-il, j'avais bien entendu ce bruit, mon esprit était parfaitement éveillé. Avec constance et opiniâtreté, je ne quittais pas le corps des yeux. Plusieurs minutes s'écoulèrent sans que rien ne vienne éclaircir quelque peu le mystère. Mais à la longue, il devint évident qu'une faible et très légère coloration, à peine perceptible, avait gagné les joues et les petites veines des paupières. Sous l'effet d'une horreur indicible, je sentis s'arrêter les battements de mon cœur et mes membres se raidir sur place. Un obscur sentiment du devoir me permit cependant de retrouver mes esprits. Je ne pouvais plus douter que nous nous étions quelque peu précipités dans les préparatifs funéraires. Rowena vivait encore. Il fallait immédiatement se mettre à l'œuvre pour la ranimer. Mais la chambre était à l'écart de la partie de l'abbaye où se tenaient les domestiques. Je demeurais donc seul à lutter ardemment pour rappeler l'esprit qui continuait à flotter alentour. Mais très vite, il s'avéra qu'il eut une rechute. La couleur des paupières et des joues s'était évanouie, laissant place à une blancheur livide, plus pâle encore que le marbre. Les lèvres étaient à la fois racornies et pincées dans l'expression horrible de la mort. Je retombai en frissonnant sur le fauteuil d'où j'avais été si soudainement arraché et m'abandonnai de nouveau à mes rêves éveillés, mes visions passionnées de Ligeia. Une heure s'était ainsi écoulée lorsque j'entendis une nouvelle fois, était-ce possible, un vague bruit provenant du lit. J'écoutais au comble de l'horreur. Le bruit recommença, c'était un soupir. Me précipitant sur le cadavre, je vis distinctement ses lèvres qui tremblaient. Je sentis que ma vue se brouillait, que ma raison s'égarait. Le front, la gorge et les joues étaient à présent un peu colorés. Même le cœur battait d'un pouls léger. Elle vivait. Redoublant d'ardeur, je m'employais à la ramener à la vie. Je lui frictionnais, lui lavais les tempes et les mains, mais en vin. Soudain, la couleur disparut. Le pouls cessa. Les lèvres reprirent leur expression cadavérique. De nouveau, je m'abandonnais à mes visions de Ligeia et de nouveau, parvint à mes oreilles un faible sanglot provenant du lit. Mais à quoi bon décrire avec tant de détails les indicibles horreurs de cette nuit? À quoi bon raconter comment, heure après heure, jusqu'à ce que l'aube grise soit prête à poindre, se répétait ce drame hideux de la résurrection? Comment chaque terrifiante récidive se soldait par une mort plus complète et apparemment plus irrémédiable? Qu'on me permette de conclure rapidement. La majeure partie de cette nuit terrifiante s'était dissipée et celle qui était morte remua de nouveau, avec plus d'énergie à présent. Et n'étaient ces paupières qui demeuraient lourdement closes, j'aurais pu croire que Rowena s'était totalement libérée des chaînes de la mort. Mais si, même alors, je ne pouvais y croire complètement, il me fut impossible d'en douter plus longtemps lorsque je vis, se dressant hors du lit, chancelante, les yeux fermés, comme égarée dans un rêve, la chose dans son suaire avançait pas à pas, solide et palpable, vers le milieu de la chambre. Je ne tremblais pas, je ne m'agitais pas. Une multitude de pensées inexprimables et folles s'étaient ruées simultanément dans mon esprit, me laissant comme paralysé, pétrifié. Je ne m'agitais pas, mais je contemplais l'apparition. Se pouvait-il vraiment que la vivante Rowena se trouvât là, devant moi? Se pouvait-il qu'il s'agît vraiment de Rowena, la blonde Rowena aux yeux bleus? Pourquoi en douter? Les bandelettes pendaient autour de sa bouche et les joues étaient comme les roses du milieu de sa vie. Oui, elles pouvaient très bien être les belles joues de la vivante Lady Rowena. Mais avait-elle donc grandi depuis sa maladie? Quelle inexprimable folie s'empara de moi à cette idée. En un bond, j'atteignis ses pieds. Elle eut un mouvement de recul lorsque je la touchai et de sa tête tomba l'horrible linceul qui l'avait enveloppée. Se déploya alors dans l'atmosphère électrique de la chambre une masse énorme de longs cheveux en désordre, plus noirs que les ailes de la nuit. Et là s'ouvrirent lentement les yeux de la figure qui se tenait devant moi. « Les voici enfin !» m'écriai-je. « Non, non, impossible de la confondre. Ce sont bien les yeux si vastes, les yeux noirs et sauvages de mon amour perdu, les yeux de Lady Ligeia. »
Marie Bonaparte.
Ce qui est très frappant dans l'œuvre de Poe, ce sont les personnages féminins. Les personnages toujours à la fois éthérés et macabres qui hantent son œuvre, tels que Morella, Ligeia, Lady Madeleine dans La chute de la maison Hoche, ou bien Bérénice. Dans ces contes, le poésque héros est d'abord présenté comme l'époux, le frère ou le cousin, le fiancé d'une femme extraordinaire dans un lieu lointain hors l'espace et le temps. Et alors l'héroïne se met tout d'un coup à dépérir d'un mal singulier, qui ressemble d'ailleurs fort à la tuberculose, à la phtisie. Cela me donne l'idée de rechercher s'il n'y avait pas eu dans la enfance de Poe une femme semblable. Car je ne le savais pas alors, je ne connaissais pas du tout la biographie de Poe. Et je découvris en effet que c'était sa propre mère. Sa propre mère qu'il perdit quand il avait trois ans à peine. Ça semble extraordinaire évidemment aux profanes qu'une mère perdue à 3 ans puisse laisser de tels souvenirs dans l'inconscient, mais il faut distinguer entre mémoire consciente et mémoire inconsciente.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
La peau humaine a au toucher la douceur du papier couché, mais en dessous c'est organique. Sous son velouté de pétales, la peau recèle un arsenal de répugnantes mécaniques. Couverte d'un léger duvet, en ballant le vif du sujet, elle en camoufle le profane. C'est une membrane si fine que sa fragilité confine à celle de la cellophane. Il serait, paraît-il, humain que chacun sente le besoin de regarder dans son semblable. On a fabriqué pour se faire de tout temps en bois ou en fer des outils assez convenables. Une arme blanche, des pensées sombres, un petit cri dans la pénombre, sous la lune, les couleurs tranchent. À cet instant, l'hémoglobine, sombre et gluante grenadine, s'évade pour tenter sa chance. Une arme blanche, des pensées sombres, un petit cri dans la pénombre, et la housse n'est plus étanche. La peau humaine offre au métal, en cas de rendez-vous brutal, une résistance bien maigre. Dans les rues en estafilade, c'est une faible barricade qu'il est dur de garder intègre. Et cette peau que l'on protège, tenue de voyage ou de neige, qu'on voudrait montrer mais qu'on cache. La nuit venue séjourner dans un tiroir réfrigéré, vêtu d'un costume de bâche. L'esprit humain est allé loin pour regarder dans son voisin, inventant l'inimaginable en oubliant que la colère le ramène au rudimentaire, goulot cassé, couteau de table. Une arme blanche, des pensées sombres, un petit cri dans la pénombre, sous la lune, les couleurs tranchent. À cet instant, l'hémoglobine, sombre et gluante grenadine, se libère et prend sa revanche. Une arme blanche, des pensées sombres, un petit cri dans la pénombre, et la housse n'est plus étanche. La peau humaine a au toucher la douceur du papier couché, mais en dessous c'est organique. Sous son velouté de pétales, la peau recèle un arsenal de répugnantes mécaniques. Couverte d'un léger duvet, emballant le vif du sujet, elle en camoufle le profane. Une arme blanche, des pensées sombres.
conclusion, redonnons la parole à Charles Baudelaire. En 1856, le poète publie, en même temps que ses premières traductions des histoires extraordinaires, une courte biographie d'Edgar Poe, sous forme d'exercice d'admiration. Aucun homme, je le répète, n'a raconté avec plus de magie les exceptions de la vie humaine et de la nature, les ardeurs de la curiosité de la convalescence, les fins de saison chargées de splendeurs enivrantes, les temps chauds, humides et brumeux où le vent du sud amollit et détend les nerfs comme les cordes d'un instrument, où les yeux se remplissent de larmes qui ne viennent pas du cœur, l'hallucination laissant place au doute, l'absurde s'installant dans l'intelligence et le gouvernant avec une épouvantable logique, l'hystérie usurpant la place de la volonté, la contradiction établie entre les nerfs et l'esprit. Il analyse ce qu'il y a de plus fugitif, il soupèse l'impondérable. Au sein de cette littérature où l'air est raréfié, l'esprit peut éprouver cette vague angoisse, cette peur prompte aux larmes et ce malaise du cœur qui habite les lieux immenses et singuliers. Mais l'admiration est la plus forte, et d'ailleurs l'art est si grand. Comme Eugène Delacroix, Edgar Poe aime à agiter ses figures sur des fonds violâtres et verdâtres où se révèle la phosphorescence de la pourriture et la senteur de l'orage. La nature dite inanimée participe de la nature des êtres vivants et comme eux frissonne d'un frisson surnaturel. L'espace est approfondi par l'opium. L'opium y donne un sens magique à toutes les teintes. Les personnages de Poe, ou plutôt le personnage de Poe, l'homme aux facultés suraiguës, l'homme aux nerfs relâchés, l'homme dont la volonté ardente et patiente jette un défi aux difficultés, celui dont le regard est tendu avec la raideur d'une épée sur les objets qui grandissent à mesure qu'il les regarde, c'est Poe lui-même. Et ces femmes, toutes lumineuses et malades, avec leur mélancolie inguérissable et cet amour insatiable du beau, c'est encore lui.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Pierrick Charles. Elle a été préparée par Estelle Gapp, Fanny Leroy et Claire Tesser. Disponible depuis octobre, la nouvelle traduction des œuvres intégrales d'Edgar Poe par Christian Garcin et Thierry Gilibeuf sera suivie de deux prochains volumes, toujours aux éditions Phébus. Bonne soirée, bonne lecture et à la semaine prochaine.